Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le spectacle musical Les Choristes, adapté du film de Christophe Baratier, arrivera sur scène à la fin du mois. Hier, les enfants de la chorale ont découvert la salle des Folies Bergères où ils chanteront chaque soir et reçu la visite surprise de Jean-Baptiste Monnier, la vedette du film. Steven Bellery était sur place. Reportage dans un instant. Dans un nouveau livre, un saint homme, Anne Wiazemski, se souvient de l'homme qui lui a donné le goût de l'écriture, un prêtre. Rencontre avec l'auteur, signé Bernard Lehu. Ce soir, en direct sur France 2 à 21h, la pièce de théâtre Plein Feu avec Lynn Renault. La comédienne retrouve un rôle qu'elle jouait il y a 25 ans, ses confidences à suivre avec Isabelle Morini-Bosque. Enfin, Monique Younes nous proposera une sélection de bandes dessinées. Il sera question de rumeurs et de courses effrénées après l'amour idéal.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Samedi soir, Gad Elmaleh sera pour la première fois avec son spectacle en anglais sur une scène mythique de New York. On retrouve en direct le correspondant d'RTL, Philippe Corbet. Bonjour Philippe.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Cette scène mythique, c'est le Carnegie Hall. Philippe, un humoriste étranger sur cette scène, ça n'est pas rien. Hein,
ah oui, Carnegie Hall et ses murs en briques, c'est l'une des salles les plus prestigieuses au monde depuis 1891. C'est plutôt d'ailleurs une salle de concert classique. Si je devais comparer, je dirais que c'est un peu comme la salle du Châtelet, oui, à Paris. Il y a bien des humoristes qui jouent au Châtelet, notre camarade Laurent Gérard, Florence Foresti, Valérie Lemercier, mais ce sont vraiment des têtes d'affiche. Alors pour remplir les 2800 places, Gad Elmaleh a travaillé avec soin depuis plus d'un an, le bouche à oreille. Il a rodé son spectacle sur une scène minuscule d'un comedy club. D'ailleurs, en fait, c'est un pub. Et il a fait le tour des émissions de télé qu'on appelle les late shows parce qu'il passe en fin de soirée, parfois après minuit. Mais il tourne ensuite beaucoup sur YouTube.
Very funny French comedian Gad Elmaleh.
Vous savez, à part Marion Cotillard, aucun Français n'est invité, et encore moins régulièrement. Il faut avoir de la répartie, l'esprit vif, et c'est pas simple hein, dans une langue étrangère. Donc voici un exemple, Gad Elmaleh, invité sur NBC du Late Night de Seth Meyers, qui lui demande de lui apprendre le français.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je m'appelle Seth Meyers.
Je m'appelle Seth Meyers.
No, with the French accent, Seth Meyers.
Je m'appelle Seth Meyers.
Seth Meyers is something. Seth Meyers. Ok, je m'appelle Seth Meyers.
Je m'appelle Seth Meyers.
Et le seul film que j'ai vu.
Le seul film que je te veux.
No, I didn't say that at all. The only movie I've seen.
Ok.
Sur la France.
Sur la France.
C'est. Is. Ratatouille.
Ratatouille, yeah.
Donc même si c'est un spectacle en anglais, il joue beaucoup sur le fait qu'il est français, c'est ça ?
Oui, ouais, son spectacle, ce n'est pas une adaptation, traduction de ses sketchs, ce n'est même pas une transposition. Il s'est vraiment rapproché de la culture américaine du stand-up, c'est-à-dire une forme de conversation. Et donc comme il est un Français en Amérique, c'est une source inépuisable d'anecdotes cocasses, comme dans ce sketch qu'il a joué lors du Late Show de Stephen Colbert sur CBS.
I jumped in a cab.
Il raconte qu'il monte dans un taxi.
I said to the driver, please take me to JFK.
Demande à aller à l'aéroport, JFK, mais ça les fait rire parce qu'en anglais ça se dit JFK.
Can you believe this guy had no idea?
Le chauffeur ne comprend pas. Et ce qui fonctionne très bien, c'est que Gad Elmaleh renvoie la balle, ou plutôt la blague.
Come on guys, let's imagine you come to France, Paris to visit.
Imaginez un Américain à Paris.
Yeah, we're Americans, we're looking for the iPhone Tower.
Qui demande à aller à la tour iPhone, iPhone Tower. Ça ressemble un peu à Eiffel Tower, donc la tour Eiffel.
Philippe, est-ce que ça veut dire que Gad Elmaleh est une vedette en Amérique ?
Bon, disons, ça n'a pas valeur de sondage, mais j'ai testé ces derniers jours auprès d'Américains que je connais et qui regardent ces émissions. Pour être honnête, le nom de Gad Elmaleh ne disait rien à personne. Quand j'aurais passé des extraits, certains se souvenaient vaguement avoir aperçu ce funny French guy, ce français marrant à la télé, mais sans plus. Donc même si on aperçoit son visage sur les pubs accrochées au toit des taxis jaunes, ce spectacle à Carnegie Hall samedi, ça marque en fait le début réussi d'une carrière américaine, pas encore tout à fait la consécration.
Vous serez sur place ?
Je vais y aller, évidemment.
Ah bah voilà. Donc on attend de nouvelles informations de notre correspondant aux États-Unis. Merci beaucoup, Philippe Corbet. Un reportage. partage à présent. 8,5 millions de spectateurs l'ont vu au cinéma en 2004. Le film Les Choristes va revivre sur scène à partir du 23 février au Folies Bergères à Paris avant de partir en tournée. Son réalisateur Christophe Baratier en signe l'adaptation et la mise en scène. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez passé hier la journée avec toute la troupe qui découvrait en fait pour la première fois à la fois la salle et le décor et qui a reçu une visite surprise.
Oui, grande journée pour cette trentaine de gamins âgés de 9 à 14 ans regroupés au pied de la scène. Christophe Baratier les accueille.
Les enfants, merci d'être là. Bonjour à tous. Et si tout d'un coup on entrait enfin à fond de l'étang et qu'on voit cette cour, ce mur, cette porte du cachot, ces fenêtres du dortoir que vous avez toujours imaginé. Alors on va commencer comme ça. On y va. Top rideau.
L'école apparaît, soudain la façade se retourne, une classe se construit devant les yeux des bambins, des bureaux avec encriers, un tableau noir, des cartes jaunies.
Alors est-ce que vous êtes contents ?
Oui !
Et je voudrais vraiment vous rappeler que je ne suis pas là comme un chef, qu'on est tous une équipe. Pour ça, par exemple, quand je vous dis de ne pas parler, je ne veux pas m'adresser à vous comme nos enfants, je suis en train de vous dire, aidez-moi. Parce que si vous me lâchez, moi, je n'irai pas très loin. Donc je vous demande d'être avec moi et moi, je serai là pour vous. Et ben, je crois qu'on va enfin se mettre au travail.
Oui.
Est-ce qu'on dit qu'on va tout déchirer?
Oui.
Les enfants s'installent derrière leur pupitre, ils seront 15 sur scène, droit du travail oblige, le public ne verra pas les mêmes enfants chaque soir, tous sont issus de la prestigieuse maîtrise des hauts de scène. En vacances depuis vendredi, ils peuvent se consacrer intégralement aux répétitions, mais avant qu'elles ne démarrent hier, Christophe Baratier avait réservé une surprise.
Il fallait qu'il y ait quelque chose de particulier. J'allais même dire quelqu'un de particulier. C'est quelqu'un qui est très lié aux choristes, c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Allez, on va dire, JB, il est où? JB. Ouais.
Jean-Baptiste Monnier débarque il y a 13 ans. Il incarnait Pierre Morange. Dans le film, il est resté de longues heures hier, glissant quelques conseils, partageant son expérience. Dans la classe, on exultait.
Ah, c'est génial.
Oui, c'est trop bien.
C'est génial. On l'avait jamais vu en vrai, en fait. À chaque fois, on le voyait derrière l'écran quand il était plus petit. Maintenant, on le voit en grand. Qu'ils viennent se déplacer. Pour nous, c'est génial, quoi.
Enfin, on s'attendait pas du tout à ça.
Enfin, c'est quand même le personnage principal des choristes. Et en plus, il vient pour nous voir, nous. Et donc, du coup, c'est vraiment super.
Bah, je sais pas, ça me fait bizarre parce que moi je le connais juste quand il était enfant. Donc ça me fait bizarre de le voir comme ça.
Dites-moi, on entend des filles là.
Ouais.
Et il n'y en avait pas dans le film, si je me souviens bien, Steven.
Exactement, le spectacle va introduire quelques nouveautés par rapport au film. Écoutez cet extrait des répétitions. Le père Maxence salue le prof Clément Mathieu.
Oui, alors vous voyez ici, je fais gardien, infirmier, jardinier, l'homme à tout faire quoi. Et vous, c'est votre premier poste ?
Disons que j'ai déjà donné des cours dans un collège privé.
Ah, des cours de...
musique.
Ah, bah vous devriez vous entendre avec Rachin.
Hein ?
Le directeur, c'est un ancien joueur de trompette.
Ah.
Mais doucement les filles, on court pas.
Comment il y a des filles ici ?
Oui, oh, bah c'est provisoire, l'orphelinat pour jeunes filles est en travaux, alors le temps que ça soit fini, on a dû en prendre 4. Oh, vous auriez vu la tête de Rachin. Tenez, le voilà.
Christophe Baratier travaille sur le livret depuis des mois.
Quand je me suis mis à l'adaptation, tout était tellement cohérent sur scène que je me disais, mais c'est bizarre, on dirait que le spectacle existait avant le film. En revanche, je me dis, si je viens, il faut vraiment que le public retrouve ce qu'il aime, Morange, les chansons, Pépinot, mais qu'il soit surpris, qu'on lui apporte quelque chose, qu'il va lui donner l'impression qu'on n'a pas fait une photocopie du scénario, tout en gardant le même récit, faire une œuvre nouvelle. Et quitte à être musical, allons plus loin. On retrouve évidemment les chansons des enfants, mais les rôles des adultes deviennent partiellement chantants. Donc avec Bruno Coulet, nous avons réécrit 8 nouvelles chansons. Rachin, évidemment, avec son principe d'action-réaction, nous le chante. C'est très drôle. Comme ça, le vrai Beauchamp est quand même réservé aux enfants.
Ben c'est ici, à fond de l'étang, qu'on m'a condamné pour 20 ans. On met trop pas des abrutis qui ne font que me pourrir la vie. Il fallait donc bien que je fasse tout ce dont ils se débarrassent. Mettre les deux mains dans la crasse.
La voix de Patrick Zarin qui interprète le directeur Rachin avec cette nouvelle chanson Action Réaction. Assis dans la salle, Jean-Baptiste Monnier dévore des yeux la scène.
Je ressens beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de joie de voir cette histoire renaître. Et je ressens comme un besoin de transmission. J'ai vu ces enfants qui étaient pour la plupart ou très peu et n'étaient même pas nés quand le film est sorti. Et maintenant c'est eux qui vont faire vivre ces chansons. Donc c'est quelque chose de très émouvant. Voilà, c'est leur choriste maintenant, c'est leur spectacle, ça leur appartient et ça va être autre chose. C'est bien de voir cette jeune maîtrise s'approprier ces chansons-là et maintenant d'en faire quelque chose de magique, j'en suis sûr.
Alors, est-ce prometteur, Steven, et est-ce que ça s'annonce magique, comme nous le disait à l'instant Jean-Baptiste Monnier?
Ouais, les gamins sont bluffants, le décor réussit, les nouvelles chansons ciselées, on retrouve vraiment l'atmosphère du film. Christophe Baratier.
J'ai pas l'impression de bégayer, pas l'impression d'exploiter un filon. J'ai vraiment l'impression de faire une œuvre nouvelle. Ce qu'on m'avait reproché à l'époque du côté de l'intemporalité, précisément parce que c'est dans le passé que c'est intemporel et toute époque. Si je l'avais inscrit pile dans l'année 2004, ça aurait été vite démodé.
Et ça ne l'est absolument pas. Hein. D'ailleurs, 13 ans plus tard, qu'est-ce que représentent les choristes pour Jean-Baptiste Monnier? Réponse de l'artiste qui vient de fêter ses 26 ans.
30 cm de plus. Le commencement. Voilà, j'ai jamais voulu être comédien ni chanteur à la base. Je faisais vraiment ça pour le plaisir, mais c'est ce qui m'a donné envie de continuer tout ça. Une découverte, une chance, un hasard, une rencontre avec Christophe. Un tout petit coup de vieux. Ça va aller, ça va passer. Ouais, la musique, ça continue. Il y a un album qui arrive en juin, il y a du théâtre et un long métrage qui arrivera en fin d'année.
Sur ton chemin, chanté par les nouveaux choristes. Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Les choristes, le spectacle musical, c'est aux Folies Bergères à Paris du 23 février au 21 mai. Les prix de 30 à 89 euros et ça part en tournée partout en France dès le 22 septembre.
Reportage signé Steven Bellery pour RTL.
Nous, on n'est pas là pour jouer les poulettes. On va vous montrer les mecs, on n'est pas des fillettes. Nous, on sort les griffes, on a un chéri. Nous, on voit les bras, vous allez pleurer les petits gars. On n'a pas besoin d'appeler Rachin.
Crâne
d'obus, tout se abri.
C'est mignon. Voilà, dans les coulisses des choristes, le spectacle arrive aux Folies Bergères. Je vous le rappelle, on va passer maintenant à nos résultats d'audience de la soirée d'hier avec Médiamétrie et votre analyse et vos chiffres, Isabelle Morini-Bosque.
Le public est très télé, très réparti hier, pour ne pas dire éparpillé sur l'ensemble des chaînes. Alors, quelque chose à remarquer tout de même, le score de la série, de la série belge qui est programmée depuis hier sur TF1, Ennemi Public, il y a 10 épisodes et ça démarre mal puisque moins de 4 020 000 téléspectateurs sont devant la une hier. C'est pas une débâcle, mais c'est pas assez. Alors, en revanche, le vrai succès, quasiment, c'est pour À l'état sauvage sur M6 avec Matt Pokora, puisque 3 700 000 téléspectateurs étaient sur la 6.
Populaire.
C'est très nettement au-dessus de la moyenne de la case, et surtout, M6 attire et retient hier, quasiment, en exclusivité, tout le public féminin disponible, on va dire. Et Castle sur France 2, il est temps que ça se termine, ça s'essouffle. 2 600 000 téléspectateurs et moins de 11% du public étaient sur la 2 pour la dernière saison de Castle. Et oui, il y a des aventures qui se terminent mal, comme les histoires d'amour.
On vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Auparavant, on a rendez-vous avec Bernard Lehu, qui est venu avec un saint homme sous le bras. C'est le dernier livre d'Anne Wiesemski.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonne journée à tous. Il est 9h14. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré Anne Wiesemski. C'est la petite fille, bien entendu, de François Mauriac. Elle vient de publier son nouveau livre, Un saint homme chez Gallimard.
Et une nouvelle fois, Anne Wiesemski nous propose un livre qui tient plus du récit que du roman. Elle a consacré ses ouvrages précédents à son grand-père, bien sûr, à ses parents, à Jean-Luc Godard avec qui elle a été mariée ou un autre cinéaste, Robert Bresson, avec qui elle a tourné. Dans Un saint homme, elle se souvient d'un personnage plus inattendu, l'homme qui lui a donné le goût de l'écriture, un prêtre, le père d'eau, son professeur de latin et de français quand Anne Wiesemski était lycéenne à Caracas, au Venezuela, où son père était en mission pour une organisation internationale.
Ça fait très longtemps que je savais que j'écrirais sur lui. Il faut que du temps passe pour que je puisse écrire sur quelqu'un que j'aime. Et c'est une amitié, il y a eu entre nous une amitié qui, je crois, ne ressemble à aucune autre amitié. Et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage aussi, à mon tout petit niveau, d'une modeste existence sur Terre d'un prêtre.
D'un saint homme.
Voilà, d'un saint homme. Et un saint homme, pour moi, ça ne veut pas dire spécialement un prêtre, ça veut dire un vrai être humain.
Et alors, avec une infinie délicatesse, Anne Wiesemski raconte donc comment l'écriture a toujours été au cœur de l'amitié nouée entre le prêtre et la jeune fille, et comment ce lien tissé entre eux a résisté au temps. Après son retour en France, Anne Wiesemski perd de vue le père d'eau pendant près de 30 ans, et c'est l'écriture qui va les réunir à nouveau.
Oui, puisqu'il y a plein de coïncidences dans notre histoire très étrange. Il m'a retrouvée parce qu'il m'a entendue à ma première émission
de radio, votre premier roman.
Oui, oui. Et puis il a arrêté sa voiture, et il a foncé sur un annuaire, il m'a appelé et il était retourné à Bordeaux après un périple en Afrique énorme. On s'est revus, puis c'était comme si on ne s'était pas quittés.
Et l'écriture était déjà la naissance de votre amitié au lycée.
Oui, il me poussait à écrire parce qu'on avait fait un journal, L'écureuil, et il me poussait à écrire. Moi, j'écrivais dedans un feuilleton de chevalerie. J'étais très propulsée de mon désir d'écrire par le désir qu'il avait que m'écrive et son bonheur de me lire. Et il se trouve qu'à mon premier livre, je retrouve ça. C'est quand même un miracle, hein.
Alors, il y a beaucoup de douceur et de charme dans la voix et les mots d'Anne Wiazemski.
Oui, en harmonie avec la tonalité de son livre, une histoire simple au fond, mais capitale et pleine de grâce. Le plus surprenant, c'est que la religion n'a jamais joué un rôle majeur dans cette amitié. Le père d'eau n'a jamais cherché à être un guide spirituel, encore moins un confesseur.
Et je l'adore, entre autres, pour ça. Il avait su, très vite, quand j'avais 15 ans, que j'avais perdu la foi. Il aurait énormément aimé que je la retrouve. Mais en rien, il voulait me pousser à ça, si vous voulez. Et ça fait partie des choses que je trouve très extraordinaires et en tout cas incroyablement respectables chez lui.
Le père d'eau est mort en 2006. Anne Wiazemski reproduit la dernière lettre bouleversante qu'il lui adresse. Il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Entendez ces mots, Anne, qui veulent bien maladroitement vous redire la tendresse que j'ai toujours eue pour vous. En écho elle-même tout au long de son livre, brosse du père d'eau un portrait affectueux de cet homme qu'elle voyait fort d'avoir gardé son âme d'enfant et qui aura toujours été là au bon moment.
Oui, il y a un terme de cinéma qui dit bien ça, c'est raccord direct. C'est pas du tout le cas tout le temps, hein.
Ouais.
C'est rare. Mais c'est peut-être ça qui m'a donné envie d'écrire sur lui aussi, c'est tous les moments où on se retrouve qui signifient toujours quelque chose.
Comme on dit dans les contes, c'est votre bon génie ?
Ah, c'est formidable, j'accepte votre définition. Et pour moi, c'est la personne au monde qui m'a pardonné le plus de choses, qui a été le « il ne m'en a jamais tenu rigueur » de quoi que ce soit, alors que je suis une pécheresse comme les autres.
Hein. Une patachonne.
Une patachonne.
Oui, mais il ajoute, vous avez l'âme pure.
Oui.
Et vous dites que c'est sans doute la part...
Mais je suis d'accord, en
la
plus.
Oui.
J'ai des défauts, j'ai fait des fautes, mais je crois que j'ai une âme plutôt pure.
Mais oui, tout comme Un saint homme est un livre pur, un acte de foi en l'amitié.
Je pense maintenant, après avoir écrit ce livre, qu'on a été important l'un pour l'autre. Qui n'a pas eu justement dans beaucoup d'histoires, malheureusement, un qui aime plus l'autre. Là, c'était très égal.
Et qu'est-ce qu'il y avait pour lui d'important donc, dans la rencontre avec vous ?
Je crois, c'était pas un être prétentieux, la fierté d'avoir fait de cette gamine un écrivain.
Anne Wiazemski publie Un saint homme, laissez-vous tenter, hein, vraiment, c'est publié chez Gallimard, entretien complet à retrouver sur RTL.fr.
Et on pourra aussi prochainement se laisser tenter par le film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable, qui raconte en fait l'histoire d'amour entre Anne Wiazemski, je vais y arriver, et Jean-Luc
Godard, qui a raconté dans son livre précédent.
On attend ça avec beaucoup, beaucoup de curiosité. On va passer à notre soirée télévisée, merci beaucoup Bernard Lehu. Vous appréciez Isabelle Chicago Med sur TF1 et Meurtre à Avignon sur la 3, mais votre coup cœur, c'est plein feu, la pièce de boulevard proposée ce soir sur France 2 avec Lynn Renaud et Fanny Cottençon dans les rôles principaux.
Oui, c'est une retransmission en direct du théâtre Héberteau après 14 représentations. Ce soir, la dernière, c'est dire si Lynn Renaud est rodée, en même temps c'est logique quand on s'appelle Renaud, elle incarne Alice Margot, un monstre sacré du théâtre de boulevard et un monstre tout court qui malmène son entourage, brillamment certes, et cette femme qui a tout sacrifié à sa passion, qui continue à jouer des héroïnes dont elle n'a plus l'âge du tout, cette femme va se faire avoir par une fausse admiratrice, vraie rivale. Si le thème vous dit quelque chose, c'est parce que c'est celui de All About Eve, immense film avec Bette Davis et Marilyn Monroe. Je l'ai fait remarquer, Lynn Renaud. Lynn Renaud qu'on retrouve, je m'en suis rendu compte, quasiment chaque année à la même époque, une sorte de rendez-vous. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors, bonne année. Oui, Marilyn avait le tout petit rôle, mais c'est un film avec Bette Davis et Anne Baxter. Déjà, le film de Mankiewicz était tiré d'une pièce de théâtre, La Sagesse d'Ève. Et là, c'est la adaptation donc
de la pièce.
Oui, de la pièce. J'ai joué ça il y a 25 ans et c'est une adaptation de Didier Kaminka qui a pas pris une ride, terriblement moderne. Et moi, j'ai toujours rêvé de rejouer cette pièce. Formidable, bien construite. Les mots fusent, cinglent, c'est des banderines, c'est du ping-pong. Parce que Didier Kaminka, c'était le nouveau Michel Audiard.
Alors, Lynn Renaud doit être la record woman du nombre de captations de pièces sur France 2.
En tout cas, on est le record woman, Muriel et moi, dans la pièce Fugueuse, où nous avons fait 8 millions de téléspectateurs. J'ai fait pas mal de captations, oui, mais celle-ci, c'est plus qu'une captation, c'est un direct.
Est-ce que ça donne un trac particulier d'être en direct ? Parce qu'a priori, ça ne change rien des autres jours.
On a fait un direct avec Fugueuse, Oui, on a eu, aussi bien Muriel que moi, un peu plus le trac parce qu'il peut arriver n'importe quoi pendant un direct. D'ailleurs, la veille du direct, voilà. Je me suis cachée le pied. C'est arrivé la veille, donc si ça arrive dans le direct...
Ben oui, vaut mieux éviter. Alors moi, j'ai adoré tout d'une pièce, si j'ose dire, cette comédie avec des dialogues effectivement cinglants. Par exemple, je l'ai vu samedi soir, j'ai vraiment aimé. Par exemple, cette réplique devinette qui m'a éclatée. Quelle est la différence entre un skieur en position de recherche de vitesse et une jeune comédienne en recherche de rôle? Eh bien, les cuisses, elles sont nettement plus serrées chez le skieur. Il y en a énormément comme ça tout au long de la soirée. Une autre réplique, Lynn?
Moi, dans ma tête, je me sens toujours jeune. Alors, tant que mon corps suivra ma tête, je ne serai qu'une emmerdeuse. Et le jour où mon corps ne suivra plus ma tête, alors là, attachez vos ceintures. Et il y en a du texte. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme texte, là? Et drôle, drôle, drôle. Elle est monstrueuse, excessive, extravertie, et tyrannique. Elle fait souffrir son entourage et elle s'adore. Et surtout, on a beaucoup de chance parce que le metteur en scène, Ladislas Chola, est probablement le meilleur de cette génération. Il a déjà fait pour moi Très chère Mathilde, Harold et Maude, Momo pour Muriel, Résiste. Et là, il a Oliver Twist qui est une pure merveille.
Alors, s'il l'a dit, c'est étrange parce que si elle est victime de sa rivale dans la pièce, elle l'a également été au cours de ses 10 dernières années dans la vie et vient de raconter sa mésaventure dans un livre publié chez Robert Laffont.
Oui, c'est ça, c'est une trahison. Une jeune femme qui est entrée comme ça, naturellement, parce qu'elle promettait beaucoup. Elle avait 17 ans quand je l'ai rencontrée et c'était vraiment une petite jeune fille à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, mais très intelligente. Et dans tout ce trick du web nécessaire pour mes futures archives, elle en a profité, elle est devenue de plus en plus proche dans mon entourage, jusqu'au jour où elle s'est inventée une vie pour acheter la maison en viager. Et moi, tout ce qu'elle a raconté de sa vie n'était pas du tout ça. Rien, rien, rien de vrai dans la vie qu'elle m'a raconté. C'est une malade, je lui ai pardonné, bien sûr.
Elle reste quand même ouverte à toutes les amitiés. Récemment, par exemple, elle a eu la surprise d'être appelée par un Américain, un producteur, qui avait failli dîner chez elle 15 ans plus tôt, qui a vu aux États-Unis l'épisode de la série 10% où elle joue avec Françoise Fabian et qui veut absolument la faire tourner.
Il a dit « I saw you yesterday in Call My Agent. You look fantastic !» C'était un copain, Grégory Peck, qui devait venir à la maison avec eux, qui n'était pas venu parce qu'il a eu un tour de rein. Et là, il dit « Call My Agent ».
Et je vous signale que vous m'aviez dit à l'époque, si on peut retourner ensemble, Françoise Fabian et moi, j'adorerais.
Bah oui. Ah oui, j'espère bien.
Oui, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Mais pour l'instant, si elle ne fait que 14 représentations, c'est parce qu'elle a un projet de cinéma et bientôt un téléfilm sur France 3.
Merci Isabelle Morini-Bosque. Dans quelques instants, on se retrouve avec Monique Younes.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Monique Younes, vous êtes venue ce matin avec deux bandes dessinées dont la première parle de rumeurs, m'avez-vous dit. De quelles rumeurs s'agit-il?
Tu sais ce qu'on raconte.
Monique, nous sommes à l'antenne, on évite le tutoiement.
Mais non, c'est le titre de la bande dessinée dessinée par Gilles Rochier. Non, écrite par Gilles Rochier et dessinée par Daniel Cazanave. Tu sais ce qu'on raconte.
Et alors qu'est-ce qu'on raconte?
On raconte que le môme Gabory est revenu dans sa ville natale.
Revenu pour quoi faire?
Il n'est pas revenu pour récupérer les fiches de paie de sa femme et de ses enfants, puisque le môme Gabory n'était pas marié, n'avait pas d'enfants, il n'était même pas député.
Ah bah c'est une autre histoire alors.
Rien à voir. N'empêche qu'après 2 ans d'absence, revenir comme ça sur les lieux d'un crime qu'il n'a pas commis, c'est louche.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche alors?
On ne sait pas exactement, mais de bouche à oreille, ça monte comme la rumeur légère dans l'air de la calomnie du barbier de Séville. Et les auteurs de cette excellente et très très originale bande dessinée ont construit leur récit sur l'axiome de Beaumarchais. De case en case, en passant d'un habitant du village à l'autre, et tout le monde y passe. Les boueurs racontent aux maçons, la fleuriste à l'aide-soignante, le coureur cycliste au médecin qui raconte à la grand-mère du notaire, etc. 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 Et pendant une journée entière, chacun va ajouter son grain de sel pour propager une histoire qui se transforme peu à peu, tant et si bien que le lecteur est pris d'angoisse devant cette mécanisme terrible, inarrêtable, et qui fait de cet album Tu sais ce qu'on raconte, le plus original de cette rentrée. Il est écrit par Gilles Rochier et ce qui ne gâche rien, au contraire, il est magistralement dessiné par Daniel Cazenave.
L'éditeur de ce chef-d'œuvre ?
Varum, la maison d'édition qui en a marre que Dargo lui pique ses auteurs. Tenez, Aude Picot par exemple, c'est Varum qui l'a lancé, édité ses premiers albums et maintenant c'est Dargo qui la récupère à coups de gros chèques. Il paraît, enfin, c'est la rumeur.
Quoi, qu'est-ce qu'elle dit la rumeur ? Vous en avez trop dit ou pas assez ? Faut choisir.
Non, on m'a dit que la copine du fils de l'attaché parlementaire d'un certain député dont je tairai le nom aurait dit que les éditions Varum étaient sur le point de racheter les éditions Dargo, et cela afin de récupérer un auteur très convoité, Aude Picot, qui vient de publier chez Dargo Idéal Standard.
Alors parlez-nous de l'album de cet auteur, au lieu de jouer les lanceuses d'alerte, Monique, par pitié.
Alors, Idéal Standard de Aude Picot est une fausse autobiographie. Aude Picot raconte à la première personne le parcours de Claire, 35 ans, infirmière en néonatologie, autrement dit, elle s'occupe des enfants prématurés. Elle est par ailleurs à la recherche de l'homme de sa vie. Elle veut s'installer avec lui, avoir des enfants. Elle n'en peut plus d'attendre le prince charmant avec ses cigognes et tout le toutime, comme vous savez.
Et il arrive ?
Elle le croit, elle jette son dévolu sur le pauvre Franck qui n'est pas, mais alors là, pas du tout la personne qui lui convient. Claire mettra du temps à s'en apercevoir. L'album de Aude Picot offre un chant et un contre-chant de l'obsession maternelle. Alors il y a d'un côté la vie ordinaire des gens heureux qui rêvent de fonder une famille pour ressembler à tous ceux qui rêvent de fonder une famille. Et de l'autre côté, la réalité de la vie extraordinaire qui fait naître des enfants trop tôt et les met en danger de mort. Et Claire passe d'un côté à l'autre de cette étrange barrière qui n'est ni sociale ni culturelle et qui chahute sa vie sentimentale d'une façon tragique, belle et par moments assez drôle. Alors dans tous les sens du terme, bizarre, comique, bref, passionnante, Idéal Standard de Aude Picot, c'est donc chez Dargo, une maison d'édition qui a mis au monde des enfants de toutes sortes, envers et contre toutes les rumeurs.
Deux bijoux BD choisis pour nous par Monique Younes. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Tout cela a été très varié, on a passé un excellent moment. Merci donc à toute l'équipe et bienvenue à notre Julien Courbet National.
Merci les infos, merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure pour un flash à 10h, puis pour un flash à 11h. Dès qu'il y aura besoin de flash, on fera des flashs. C'est comme ça, priorité à l'info sur RTL.